Donc aujourd'hui, on est sur le deuxième cours, oui. Je réfléchis, mais oui, seulement le deuxième. Donc dans notre thème de la révélation, où Dieu se révèle. Si je vois que tu as aussi ça, c'est bien. Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois, parce qu'on avait fait un panel un peu plus complet de la révélation, qu'est-ce que ça voulait dire, et en quoi la révélation n'était pas d'abord un texte, la Bible ou un corpus de dogmes et de choses dites. Ah oui, c'est, je sais pas qui c'est. Mais qu'elle était d'abord une intervention de Dieu dans l'histoire qui fait entrer les hommes dans un cheminement au milieu duquel il se fait connaître peu à peu. Donc la révélation, c'est la manière dont il se... Donc c'est le sens premier du terme, il se dévoile et il se révèle. Donc voilà ce qu'on avait un peu regardé la dernière fois, très macro, en regardant plein de différents aspects. On avait vu aussi que c'était par la parole, et non pas une parole théorique, mais il y a une parole vivante qui se transmet. Et là, aujourd'hui, on va étudier comment cette parole vivante, elle se transmet par les prophètes. Et c'est comme ça dans tout l'Ancien Testament que Dieu s'est fait connaître. Donc aujourd'hui, on va se parler surtout des prophètes, et plus particulièrement aussi de l'épisode de Moïse, puisque c'est un moment un peu clé dans l'histoire du peuple d'Israël. Voilà. Ce qu'on lit dans Amos 3:7, donc c'est un des petits prophètes, comme on dit, « Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par là pour bien voir ce que Dieu veut nous révéler, puisque ça passe par les prophètes. Dans le credo, on dit aussi « Il a parlé par les prophètes. » Alors, on parle de l'Esprit-Saint, mais quand même, voilà, Dieu se présente par les prophètes. Donc, ça fait partie de notre confession de foi. Donc, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas juste... un truc de l'Ancien Testament, mais nous, maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, il y a des choses qui sont nourrissantes pour nous aujourd'hui aussi. Et ce qu'on va voir, c'est dans un premier temps comment Dieu choisit des individus pour parler à son peuple, à du collectif, en fait. Donc, il passe par des personnes, parce que justement, il y a ce Dieu personnel. Et donc, ça passe comme ça par une relation. Ensuite, on regardera la révélation du nom divin dans l'épisode du buisson ardent. Et puis de l'alliance qui a suivi juste derrière, donc tout ce passage très structurant dans la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Et puis ensuite, on va voir comment le prophète, c'est pas seulement une parole qu'il traverse, il n'est pas juste porteur d'une parole ou annonceur, on va dire, mais que la parole, elle transforme sa vie et que c'est dans cette inhabitation et dans sa chair, finalement, qu'il vit l'alliance avec son Dieu. Donc, ce n'est pas juste une parole annoncée qui reste extérieure, mais c'est quelque chose qui imprègne et qui nous parlera aussi de ce qu'on peut expérimenter aussi quand on est baptisé ou quand on fait sa confirmation et qu'on fait de l'évangélisation. Ben voilà, il faut aussi l'incarner dans sa vie, parce que sinon, ce n'est pas une parole qui est juste une parole, quoi. C'est pas, elle doit imprégner pour être vécue dans l'amour. On peut dire ça. Alors, tout d'abord, Dieu a voulu parler par des hommes. Donc, Israël est le peuple sacerdotal de Dieu. Donc, ça, c'est tous les épisodes sur l'Exode. Il est le peuple de ceux à qui Dieu a parlé en premier. Donc, c'est vraiment le thème de la parole, c'est déjà avec ce peuple-là. C'est comme ça que ça a commencé. Dieu a appelé chaque prophète. Et donc, il y a aussi un appel individuel pour chacun des prophètes. Et à travers cet homme, plus souvent providentiel pour le peuple d'Israël, on est toujours à des moments un peu charnières, la parole du Seigneur s'inscrit dans le temps et l'histoire des hommes. Donc vraiment, il passe par ces individus, les prophètes, pour vraiment parler à son peuple. Et donc, c'est le Seigneur. On va beaucoup parler de Jérémie et d'Isaïe, mais surtout Jérémie, parce qu'il y a vraiment le prophète dans toute sa splendeur qui a vécu beaucoup de choses. Et donc, il dit, voilà, tu iras vers ceux à qui je t'enverrai. Voilà, c'est le Seigneur qui donne la mission à Jérémie. Ben voilà, c'est une mission d'annoncer. Et plus structurellement que juste une parole un peu dans le
Jérémie,
vide.
Jérémie, c'est un prophète, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. C'est le peuple d'Israël, à travers ses prophètes, qui est appelé à une alliance avec Dieu. Donc l'homme appelé, donc Jérémie par exemple, mais ça peut être Isaïe, ça peut être enfin, tous les prophètes de l'Ancien Testament, l'est toujours pour un peuple. Donc il n'a jamais, il n'y a pas une première étape où il le garde pour lui, etc. C'est d'abord l'envoi vers les autres et ça structure la personne. Donc il y a vraiment cette idée que Dieu il s'adresse en fait à la personne et elle n'est pas neutre, donc il s'adresse vraiment à cette personne-là, à ce prophète-là, mais au-delà de ça, il s'adresse aussi à tout le peuple. Donc c'est vraiment double visée. Dans l'Exode, on voit que Dieu ne parle pas directement aux Israélites, c'est Moïse qui porte les commissions dans les deux sens, Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment dans les deux sens, donc on est bien dans le régime de l'Alliance. Voilà, donc il descend de la montagne, il dit des choses, il remonte, il va intercéder pour le peuple, etc. Dieu met en valeur, alors pour cette partie-là, met en valeur la relation exclusive qu'il a avec Moïse, le seul qui a vu Dieu. Donc ça, c'est un statut que Moïse a, et on le verra dans l'épisode du Buisson Ardent aussi. Mais le peuple, il voit le fracas, il voit le fait qu'il y a nuée, etc. Donc il voit l'échange entre Dieu et son messager. Voilà, et donc il y a cette perception quand même de ce que Dieu dit, même par le prophète, mais aussi au-delà, par ce qui entoure le prophète. L'homme choisi par Dieu est toujours missionnaire, donc il y a toujours une annonce de la parole. Et Dieu donne pour que ce qu'il donne soit donné, donc c'est vraiment pour ça qu'il le fait. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que Dieu choisit des hommes très différents. Il n'y a pas plus différent que tous les hommes choisis dans l'Ancien Testament. Et parfois, c'est vraiment ceux qu'on attendait le moins qui sont choisis. Et voilà. Alors qu'ils n'ont pas forcément aucune aptitude pour cette mission-là. Donc, je vous ai mis un passage de Louis Bouillet dans la Bible et l'Évangile. Le simple paysan Candide, autant que Lucide, qui était Amos. Donc, c'était le bouvier qui était derrière son troupeau. Donc, a priori, aucune raison de devenir prophète. Et donc, il s'est laissé faire sans résistance. Par contre, Isaïe, lui, qui était noble de haut lignage, habitué aux responsabilités, il s'est offert hardiment à la mission divine. De lui-même, en entendant le Seigneur se demander qui parlera pour lui, il s'est écrié « Me voici, envoie-moi ». Donc lui, il a même été au-devant de l'appel du Seigneur. Et puis Jérémie, lui, beaucoup plus méditatif, introverti, hypersensible, donc on voit que les caractères sont quand même des années-lumière, se défendra vainement contre l'inspiration divine. « Ah Seigneur, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant, mais le Seigneur va le conduire, etc. » Pensez aussi à Jonas, même si c'est plus un conte, donc c'est moins illustratif du prophète. Mais il y a, voilà, il prend des hommes qui sont a priori pas bien adaptés. J'aurais pu citer aussi Moïse qui dit, mais je bégaye, je suis pas, manifestement, j'ai pas la parole facile. Mmh. Donc il dit, bah, c'est pas grave, il y a Aaron qui fera le traducteur. Voilà, donc le Seigneur répond et prend les personnes, en fait, qui sont providentielles pour ce temps-là, pour cette façon d'annoncer, et donc il les choisit. Et c'est pas toujours, comme toujours quand le Seigneur choisit, c'est pas toujours celui qui semble le plus apte à être prophète au vu de nos yeux à nous. Voilà.
Aaron, c'est un roi, hein, c'est ça?
Aaron, là c'était le frère de... frère ou cousin de Moïse? Le frère. Voilà. Aaron, pas Aaron.
Ah, c'est oui, Aaron.
Donc les prophètes sont appelés par un don absolu de Dieu et à travers la diversité de ces instruments humains, la parole divine se révèle en Israël. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Et les choses se passent quand on regarde l'histoire dans l'Ancien Testament. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que les peuples de l'Ancien Orient, donc on est dans un contexte où il y a de forts échanges entre le divin et les hommes, mais en fait, qui sont sur un mode oraculaire. Alors, ce qu'on appelle oraculaire, c'est plus la divinité. On lui pose une question et elle répond par un moyen. Ça peut être une extase, ça peut être un truc où il y a la barque, par exemple, qui peut aller d'un côté oui, d'un côté non. Enfin, il y a plusieurs façons de répondre, mais on est sur la pitié qui tombe en extase et qui donne des indications qui sont en général pas compréhensibles, mais il y a quelqu'un pour les traduire. Et donc, ce principe-là, c'est vraiment quelque part dans un seul sens. C'est la personne demande quelque chose et puis le divin, on va dire, investit un porteur de quelque chose pour donner la réponse. Voilà. Mais ce n'est pas construit dans le temps. C'est juste un oracle, un instant T, pour annoncer quelque chose qui est plutôt du futur. Alors, l'ancien Israël, on le voit dans le livre des Nombres, avait connu ce mode de consultation. Ça s'appelle les Ourim ou Toumin. Bon, ça, c'est en hébreu. Et en fait, notamment, on parle dans les Nombres d'un tirage au sort avec des boules de couleur. Donc, il y a une forme voilà, on s'en remet à Dieu pour déterminer oui, non. Voilà. Et on voit qu'ils sont encore utilisés du temps de David, mais disparaissent ensuite. Voilà. Et donc, la révélation que portent les prophètes, elle se distingue de ce mode oraculaire par le fait que, d'abord, c'est Dieu qui a l'initiative. Contrairement à, c'est pas d'abord une demande de, voilà, je vais savoir si il faut non que j'aille part en voyage, ben non, c'est d'abord Dieu qui prend l'initiative, donc c'est Dieu qui amorce la chose. Souvent en plus il prend l'initiative, mais il le fait au rebours des intentions, des prévisions, des aspirations naturelles de l'homme, alors la collectivité, le peuple d'Israël, mais souvent le prophète lui-même, hein, qui n'a pas du tout envie, voilà, et donc il poursuit son dessein et il convainc la personne. Voilà. Le deuxième chose, c'est que c'est pas seulement une parole qui annonce des événements futurs. Donc, on n'est pas juste dans la prédiction d'un avenir. Il vaut mieux faire ci que ça, il va se passer ça, etc. Mais c'est plutôt un projet beaucoup plus général sur le peuple et sur les hommes, et sur tout le peuple, en fait, et sur chaque homme. Et en fait, elle s'inscrit dans un temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses avant, il y a des choses après. Donc, on est plutôt dans une ligne continue avec un dessein de Dieu qui indique une direction. Et donc, on est dans un continuum. Et on attend du prophète qu'il dise « parole du Seigneur » et non pas « moi, je vous dis ». Donc, il y a bien ce côté, c'est vraiment la parole du Seigneur et non seulement la parole au sens oracle, oui, non, voilà, une réponse à une question, mais une parole qui est plus large que ça, en fait, parce qu'elle révèle Dieu, en fait. Donc, on est sur un autre prisme, enfin, une autre ampleur des choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que tous les prophètes sont différents, mais finalement, on voit qu'il y a des continuités entre ce qu'annonce Jérémie, ce qu'annonce Osée, ce qu'annonce... Voilà, c'est pas une histoire différente, en fait. C'est des choses qui sont alors contextualisées avec des temps et des choses, parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes, mais c'est quand même le même projet. On voit bien que c'est le même Dieu qui se manifeste. Voilà. Et donc, par cette tradition, cette longue histoire avec les prophètes, Dieu manifeste que ses dons sont sans repentance. Et donc, l'objet de la parole divine, finalement, il est unique. Et il, à la fois, il est le même quelque part pour tous les prophètes. Et donc, il échappe même à leur temps, parce qu'il y a quelque chose de au-delà, puisque ça annonce Dieu. Donc, c'est même au-delà du temps, du contexte et du temps présent des côtés des hommes. Et parce que c'est l'alliance. Voilà. Et l'alliance qui fait la préoccupation incessante de la parole du Seigneur est une alliance où Dieu, loin d'être enchaîné par un contrat quasi magique, tu me fais ci, je fais ça, donc on n'est pas dans cette relation non plus là, manifeste sa liberté absolue dans un acte de suprême générosité. L'alliance est d'abord une promesse, et à ce titre, elle est la grâce par excellence. Donc ce que Dieu vient faire, c'est qu'il vient se donner lui-même, se révéler lui-même, et ce qu'il promet, c'est une alliance, où finalement, il veut élever l'homme à son niveau. Mais ça, on verra un petit peu plus loin, après le buisson ardent. Alors, ce que nous dit aussi cette relation et cette façon dont Dieu choisit des prophètes pour faire partager sa parole, c'est que c'est un Dieu personnel. Voilà, il crée une alliance, donc non seulement une alliance avec une entité théorique qui est le peuple d'Israël, mais une alliance avec chaque personne du peuple, et c'est vraiment une alliance dans le temps et qui porte sur le cœur, pas juste intellectuel. C'est pas un contrat moral, quoi. Donc, c'est toutes les phrases autour de Jérémie. « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Donc, il y a une vraie partenariat, on va dire. « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. » Donc, on est vraiment sur quelque chose qui touche le cœur, pas juste intellectuel, pas juste un savoir ou un...
Sentimental, quand même.
Presque, oui. Dieu n'est pas comme les autres dieux, alors il est tout autre. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est dans Isaïe. Et pourtant, il veut introduire le prophète et tout le peuple dans son amitié. Et donc, quelque part, comme s'il voulait l'attirer à lui, l'élever jusqu'à lui, pour être à son niveau. Puisque, en parallèle, on dit bien qu'il est largement au-dessus. Et donc, il n'y a pas d'égalité, mais dans une alliance, il faut une forme d'égalité, quelque part, pour qu'elle soit dans les deux sens. Et donc, il traite le prophète comme un égal, en l'écoutant, en lui répondant. C'est très intéressant de voir le nombre de dialogues qu'il y a avec le prophète. Je pose une question, je fais une objection, je réponds, je recommence. Voilà. Puis, symptomatique, c'est avec Abraham, la négociation pour les 10 justes de Sodome et Gomorre. Mais au-delà de ça, avec tous les prophètes, il y a vraiment cette relation qui se tisse et cette prise en compte du prophète, de ses objections, de comment il veut voir les choses, etc. Et donc, l'homme n'est pas du tout écrasé devant Dieu, alors qu'il pourrait l'être, même s'il se reconnaît impur. C'est tous les termes autour d'Isaïe, par exemple, qui dit « Mais je suis un homme aux lèvres impures, donc je ne peux pas porter la parole. » Voilà. Mais en même temps, il est écouté, il peut parler et il peut l'interroger pour bien comprendre la mission, pour préciser les choses, pour dire « Tu exagères ». Enfin, il y a à peu près tout dans les dialogues entre les prophètes et Dieu. Et donc, Dieu s'adresse à des libertés, non à des robots. Il prend ce temps. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment en deux temps. Il veut parler au peuple, mais en fait, d'abord, il commence par parler à cette personne qui est là, le prophète. Et donc, il veut le conquérir. Il veut que ce soit fait en le prenant lui aussi, pas juste en tant que porte-parole, quoi. Voilà. Et donc, il se laisse approcher, il répond aux questions, il se révèle. Il permet en fait à ses prophètes de vraiment avoir une rencontre avec lui. Alors on dit que seul Moïse a vu Dieu, mais les autres prophètes l'ont entendu, ils ont des visions, ils ont des choses, donc c'est pas complètement tout seul. Et donc il prend ce temps-là pour apprivoiser, pour qu'ils expérimentent aussi la parole, pour qu'ensuite ils puissent mieux porter la parole et la parole de Dieu, et non pas leur propre parole ou leur propre interprétation. Et ce qu'il demande à son peuple, ce n'est pas autre chose que ce qu'il demande finalement à ses prophètes, cette adhésion volontaire à son projet. Et c'est ce qu'on verra dans les commandements et la loi, qui sont ce signe de la fidélité exigeante qui enveloppe toute sa vie et en fait un service constant de Dieu comme une liturgie. Voilà. Et c'est par ce moyen-là qu'il arrache l'homme, qu'il l'élève, en l'arrachant à la dictature de ses instincts et à sa volonté de puissance, en lui ouvrant un chemin de vie et de lumière. Les prophètes disent constamment « Écoute Israël ». Voilà, il y a cette idée de... voilà. On est tout le temps remis en question, tout le temps devoir se convertir pour aller vers Dieu. La plupart des prophètes sont virulents contre le fait que le peuple a oublié Dieu, qu'il fait n'importe quoi, qu'il va voir les idoles, etc. Donc il y a une vraie attaque constante, ou enfin en tout cas véhémence contre le peuple qui oublie la parole de Dieu. Mais en même temps, il y a toujours cette proposition que les choses peuvent changer et que c'est possible quand même. Voilà. Et donc, on n'est pas juste dans une condamnation, mais dans restaurer ce courant. Et ce que dit dans Isaïe, c'est vraiment cette idée que si on en reste à ce que nous, on pense ou à notre interprétation, bah, en fait, on n'aura pas ce que nous dit Dieu. Donc, il faut aussi être ouvert jusqu'à... vraiment se laisser mettre au courant par Dieu, se laisser pétrir de la volonté de Dieu pour pouvoir vraiment opérer à la façon de Dieu. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il révèle en fait Dieu, parce que là, j'ai beaucoup parlé, il donne sa parole au prophète, comment il le fait, mais là, on va regarder qu'est-ce qu'il dit de lui en fait. Alors, l'épisode le plus important, c'est la révélation du nom divin, qui est prolongée par la remise de la loi et l'alliance qui suit. Donc, Dieu révèle son nom. Alors, c'est pendant l'épisode du buisson ardent, donc en Exode 3. Donc, Moïse, il demandait rien à Dieu, hein, il était en train de fuir, il avait fui l'Égypte parce qu'il avait assisté à une altercation entre un Égyptien et un Hébreu, et que du coup il avait tué l'Égyptien, et donc par peur des représailles, il a probablement raison, il était parti refaire sa vie. Voilà, donc il était très tranquille. Et en fait, la première manifestation, et donc c'est vraiment l'initiative de Dieu, c'est qu'il il crée ce buisson ardent là qui ne se consume pas pour intriguer Moïse. Et Moïse est suffisamment ouvert pour voir ce buisson, se dire « Tiens, c'est bizarre », et faire le détour. Voilà. Et ensuite, Dieu commence cette relation avec Moïse en lui imposant d'abord un geste d'humilité, en lui disant de se mettre pieds nus parce que cette terre est sacrée, et pour montrer déjà la distance, effectivement, que c'est le Dieu tout autre. Ce n'est pas juste un phénomène magique, c'est le Dieu qui lui parle. Et puis, il commence par se présenter. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc la première mention de comment il se présente, c'est en faisant référence à cette continuité et au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et d'ailleurs, qui fera dire à Jésus plus loin, enfin beaucoup plus tard, c'est le Dieu des vivants. Voilà, parce qu'il y a cette continuité qui montre que c'est un Dieu vivant et pas un Dieu des morts. Donc Moïse a sûrement dû entendre parler de cette histoire ancienne, même si ça fait quand même 400 ans, donc probablement qu'il y a des choses qui ont été oubliées depuis, et puis probablement que Moïse ne connaissait pas tout. Voilà. Mais du coup, on a cette réintervention et Dieu reprend son fil conducteur de son dessein, en repartant de voilà ce qui s'est passé. Je suis le Dieu de tes pères et maintenant il faut agir parce que voilà, la misère de son peuple l'a ému. Voilà. Et du coup, il investit Moïse de la mission et Moïse n'est pas du tout ravi, il est plutôt stressé et il a peur. Et du coup. Face au fait que il sent qu'il va bien devoir y aller, du coup il essaye de demander son nom pour se dire comment je vais le présenter en fait, pour dire que c'est pas juste sa propre initiative, mais c'est vraiment de la part de Dieu. Et en fait c'est pour savoir que pour les hébraïques, alors c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais vraiment le nom ça révèle la personne et c'est avoir un accès à la personne. C'est quelque part se donner prise quand on révèle son nom, c'est quelque part on révèle son être. aussi parce que le nom, il est en dimension avec le, la paternité, etc. Et du coup, c'est vraiment donner prise à l'autre, donner finalement quelque chose, accès à son, au secret de sa personne. Voilà. Et Dieu accepte ça, de révéler son nom pour se mettre, pour dialoguer avec Moïse et pour que Moïse puisse dire aux, aux Hébreux, bah, c'est vraiment le Seigneur. C'est le Dieu. Notre Dieu. Voilà. Et du coup, donc il fournit à Moïse quelques indications sur l'action à mener. Bon, il lui dit quand même qu'il va devoir aller voir Pharaon, donc c'est pas très rassurant. Et accepte de dire son nom, donc Yahvé, donc le tétragramme, qui peut tout autant vouloir dire « je suis qui je suis », donc dans un thématique où on renvoie à la transcendance. Donc là, vous pourrez relire les petits articles que je vous avais donnés la fois dernière, parce qu'il y avait pas mal de choses sur ce, cette interprétation-là. Voilà, donc ça pourra compléter. Donc, « je suis qui je suis », c'est à la transcendance. Quelque part, je ne vous donne pas vraiment accès à qui je suis. C'est « je suis qui je suis » et je ne vous dirai pas qui je suis, quelque part. Ça peut être aussi « je suis celui qui suis », au sens « Dieu est souverainement » est souverainement au sens fort de, du mot être et dispense à tous l'être, donc il est la source de l'être. Voilà, et donc Dieu accepte de donner prise aux hommes à travers Moïse pour entrer dans son secret. Et pourtant, il est le Dieu caché, son nom est ineffable au sens pas communicable, mais il veut se faire proche des hommes. Et donc il y a toujours cette alliance et ce nom-là, et il dit les deux choses. Il dit à la fois c'est le Dieu tout autre. C'est le Dieu qui est l'être, puissance, source de l'être et de tout. Et en même temps, il se fait proche en ayant un nom qui est qui peut être dit, enfin qui peut être transmis. Voilà. En se présentant comme celui qui est ou je suis, il peut vouloir affirmer qu'il est l'être par excellence. Donc, il ne tient son existence d'aucun autre, qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc là, il se met, c'est en opposition par rapport aux idoles, qui en fait sont rien et n'ont aucune existence réelle, qui sont juste des fabrications de l'homme. Dieu est celui qui existe et qui seul existe sans aucune limitation. Il n'y a pas de fin dans l'être de Dieu. Il est celui qui suit, c'est un mode présent. Et donc, alors ça pourrait être traduit par « je suis celui qui serait », mais c'est un petit peu moins juste, il paraît. Je ne suis pas du tout hébraïque, donc je ne fais que répéter ce que des Hébraïs ont dit. Mais donc, c'est plutôt un présent dans le sens hors du temps de Dieu. Voilà. L'être de Dieu est l'être même, donc c'est ce que je vous ai déjà dit. Moïse peut s'engager donc dans sa mission avec confiance, malgré la taille de ses adversaires. Il va quand même aller voir Pharaon. Il y a les dieux de Pharaon, il y a toutes ses armées, ses magiciens, etc. Puisqu'il a avec lui celui qui est. Donc il est, il fait exister. Donc c'est aussi, comme dans Genèse, c'est le Dieu qui vit et qui voit. Quelque chose de supra aussi. Il est celui à qui on peut se fier, qui ne change pas. C'est la conception de la vérité pour l'Ancien Testament. Donc c'est pas quelque chose comme une vérité qui est cachée. Et donc, quand on interprète le tétragramme en disant bah, « c'est Dieu se cache en fait derrière un nom qui ne veut rien dire bah, », pas du tout. C'est plutôt quelque chose qui a une stabilité et qui fait que la promesse, elle a du sens, qu'on peut être fidèle à cette promesse, qu'il y a une stabilité et une vérité, enfin, que ça a quelque chose en rapport avec la vérité. Et donc, quelque part, ça nous dit, ça nous révèle aussi que Dieu est unique. Puisque s'il est la source de l'être, s'il est l'être par excellence, ben, les autres ne sont rien. Donc, du coup, c'est aussi ce Dieu unique. Alors, Saint-Hilaire nous dit « Cette définition parfaite rend la notion de nature divine par l'expression la mieux appropriée à l'intelligence des hommes. En effet, rien ne se conçoit comme plus essentiel à Dieu que d'être, parce que celui qui est l'existence même ne peut avoir ni fin ni commencement. » Donc, l'idée d'un Dieu éternel aussi, et que dans la continuité d'une béatitude inaltérable, il n'a pu et ne pourra jamais ne pas être. Donc il est l'être vraiment puissant.
C'est l'alpha et l'oméga, alors
ça pourrait être, mais ça met une notion de temps. Donc là, ils vont plutôt dire que c'est au-dessus, c'est plutôt tout autre. Alors ensuite, c'est prolongé ce texte. Donc là, on était en Exode 3, donc quelques chapitres après, on est en Exode 19, puis 24. Et en fait, c'est un peu la prolongation de ce nom divin, puisque ça, c'est dans le buisson ardent, enfin l'épisode du buisson ardent qui crée l'alliance avec Moïse et qui va commencer. Puis ensuite, il va se passer des choses, il va y agir. Et puis ensuite, bah, c'est l'alliance qui est plus concrètement matérialisé et à travers Moïse avec le peuple. Donc ce que va faire la parole de Dieu, c'est que ça va faire que le peuple d'Israël est un peuple organisé. Il faut bien voir, quand il a quitté l'Égypte, finalement c'était un peuple d'origine similaire. Il y a ceux qui ont suivi et puis du coup qui avaient peut-être les mêmes pratiques, mais c'était pas un peuple au sens organisé avec une réalité de peuple. Voilà. Donc c'est vraiment la parole de Dieu qui va le créer. C'est aussi tout ce temps de décantation dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Et donc voilà, il y a une construction du peuple. Donc ce que veut faire Dieu, c'est très clair, c'est faire du peuple Israël un peuple de prêtres, une nation sainte. Donc la sainteté, ça renvoie à Dieu, qui est à part et qui est saint. Et donc ce qu'ils veulent faire, c'est élever le peuple à son niveau finalement de sainteté. Faire un peuple de prêtres, donc déjà tout le monde n'est pas prêtre, et une nation sainte, vraiment la sainteté, c'est l'attribut premier de Dieu. Donc ce que fait pour faire ce peuple, voilà, Moïse, qui fait, c'est qu'il consigne les préceptes reçus pour en garder la trace. Donc il écrit. Alors, il y a deux choses, c'est un peu quand on lit Exode, là, il y a l'étape de la loi, et puis il y a cet écrit avec les préceptes reçus. Donc on a plusieurs choses qui sont là, mais l'idée d'écrire, c'est l'idée de... Pareil, on est dans le thème de la fidélité, une chose qui dure, donc on est inscrit dans quelque chose qui dure. L'étape de la loi, c'est celle qu'on considère qu'elle portait le décalogue, si on suit un peu le péripétie. Et elles seront brisées dans l'épisode du veau d'or, puis redonnées ensuite en Exode 33 d'une autre façon. Donc on voit qu'il y a une forme de continuité, même si on voit que l'alliance, elle n'est pas toujours facile et que ça vient aussi briser. Et le côté très concret de briser l'étape de la loi pour montrer que l'alliance, elle est brisée, c'est toujours très matériel. Ça, c'est toujours très utile d'avoir des choses tangibles. Ça parle. Voilà. Et donc, pour conclure l'alliance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sacrifice qui est offert. Ça, c'est le classique, on va dire, d'une relation et d'un partenariat avec le divin. Pas spécifique à Israël. Mais ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a d'abord, avant ce sacrifice, il y a la lecture des commandements. Ils sont lus. Il y a une expression, on demande si le peuple est d'accord de les suivre. Donc, il y a tout cet accord aussi de... au-delà juste du sacrifice, mais qui est vraiment que chaque personne donne son mot et son oui, quelque part. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un très différent. Et puis, on a après le deux rites qui sanctionnent cette alliance, c'est le partage du sang. Donc, une partie est versée sur l'autel. Ça, c'est plutôt classique pour le sacrifice. Mais l'autre partie est faite sur le peuple. Donc c'est vraiment une alliance entre le peuple et Dieu. Voilà. Tout le monde est revêtu du sang. Signe de l'alliance. Et donc, c'est vraiment le sang, c'est toujours le symbole de la vie, puisque c'est ce qui permet de vivre. Et du coup, le fait d'avoir le sang qui est...
Une petite anecdote à faire.
Alors, les anecdotes, c'est
non,
pas...
Non, c'est pas une anecdote, non. Mais c'est juste... c'est pas le partage des deux os.
Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, on prend le sang des sacrifices. Et en fait, on fait deux choses, c'est-à-dire qu'on en met une partie sur l'autel. L'autel, c'est là où il y a l'offrande pour Dieu, et donc c'est la partie divine, l'autel. Et l'autre est sur le peuple, pour bien montrer qu'en fait, on a une communion de vie, puisque quelque part, on a le même sang des deux côtés. Et donc, ça vraiment, ça scelle l'alliance dans le sang. C'est le même signe quand on dit qu'on partage son sang, quand on fait une alliance, quand on veut changer ses vies, là, quand on est gamin et qu'on fait des trucs comme ça, des pactes, c'est un peu la même idée, voilà. C'est partager la même vie. Et puis, il y a après un repas. Et donc, le repas, c'est aussi le signe, quand on partage le repas, on est de la même famille, on est du même sang. Voilà. Et donc, il y a une partie du groupe des représentants du peuple qui monte avec Moïse sur la montagne. Et donc, il le voit, il mange, il boit avec lui. Il y a ce banquet un peu qui inaugure le banquet de la fin des temps. Et donc, Israël, après, à partir de là, déjà un peu avant, mais surtout à partir de là, il y a un peuple qui a une histoire avec Dieu. Il y a des hauts et des bas. Je vous disais le veau d'or où on brise les lois, mais il y aura plein d'autres épisodes compliqués. Mais quelque part, il y a Dieu a confié son nom à ce peuple. Il a confié sa loi pour savoir comment ça fonctionne. Parce que la loi, finalement, c'est la manière dont Dieu fonctionne. Quelque part, c'est la façon dont Dieu fonctionne. Donc, il y a son nom qui dit qui il est. Il y a la loi qui dit plutôt la manière dont on peut fonctionner avec Dieu, pour fonctionner à la manière de Dieu. Et puis, il y a cette vie commune dans l'histoire, avec ses hauts et ses bas, pour vraiment durer et être dans ce Dieu qui se révèle et l'assimilation du côté du peuple. Et donc, on pourra dire « Soyez saints comme je suis saint ». Donc, Dieu peut jusqu'à dire ça dans Lévitique 19. Et donc, on a une identification de la parole et de la loi. Parole au sens fort et puis la loi. Vivre par la foi, observer la loi est un seul programme. Et on retrouvera ça dans l'épître de Saint Jacques. Voilà, c'est en fait les deux faces de la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre par la foi et puis pas observer la loi. Et inversement, ça n'a pas de sens. Et du coup, là, on voit bien que ça gagne à travers le prophète. Mais au-delà du prophète, c'est vraiment avec tout le peuple. Et donc là, chacun, finalement, donc tout le peuple et chacun dans le peuple, peut devenir saint. Et donc, quelque part, c'est un programme qui devient le programme de chacun. Alors, on verra dans le Nouveau Testament, on verra plus la prochaine fois le Jésus comme parole incarnée, donc bien plus forte que les prophètes et bien plus révélatrice de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus reprendra ce nom divin pour révéler qui il est. Et c'est une manière pour lui de dire qu'il est Dieu et qu'il est fils de Dieu. Voilà. Donc, quand il dit, et c'est intéressant parce qu'il reparle d'Abraham, il dit quand « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis », dans Jean 8. Et on est bien sur le tétragramme. Alors nous, c'est vrai que dans les traductions, du coup, c'est un peu lissé, on voit moins bien les choses. Mais on voit bien la réaction des Juifs, vu la violence, puisqu'ils veulent le lapider, qu'ils ont bien compris qu'il se faisait Dieu, en fait, en disant ça. Donc c'était pas juste une interprétation, une manière de dire. Il s'identifiait vraiment à « je suis », donc à Dieu. Voilà. Et on a cette même expression dans cette affirmation où il reprend des métaphores donc de qui il est, avec sa foi ce « je suis » qui est très emblématique du nom divin. Voilà. Et c'est à chaque fois sur « je suis le pain de vie », donc tout en lien avec le salut du monde et donc la façon dont Dieu veut sauver l'humanité et la remonter à son niveau. Donc « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, la vie ». Et le vrai cep. Donc on est toujours sur les mêmes notions. On retrouve le vin aussi, qui est le vin de l'alliance et le vin de la du partage du même repas. On retrouve toute la thématique autour de la vie, plusieurs fois, la vie, la lumière, la vérité. Et puis tout l'aspect autour de bon pasteur, bon berger, le porte des brebis, qui est cette idée de salut, de guider vers le bon endroit. Et on a un autre passage de Jésus, et je trouve que c'est intéressant aussi pour montrer que ce n'est pas juste un épisode de l'Ancien Testament, mais que ça a une réalité aussi dans le Nouveau Testament, et donc pour nous aujourd'hui. C'est « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes » ou « les prophètes ». Et c'est intéressant, il ne dit pas juste la loi, il dit la loi ou les prophètes. Donc ce que disent les prophètes, ça fait partie quelque part, c'est un tout. Il ne faut pas découper non plus tout en rondelles, hein, mais voilà, c'est un tout. Et donc tout ça, c'est ce qu'il est venu, non pas abolir, mais accomplir. Et donc, quelque part, ça englobe tout ça. Et donc, ce cheminement avec les prophètes et cette vie avec les prophètes, elle a une pérennité et elle a ouvert la voie à quelque chose et qui va aller encore plus loin avec Jésus. Voilà. Et donc, c'est la même révélation. On est autant tous les prophètes aussi, c'était la même révélation de Dieu, même si chacun y mettait sa tonalité, sa façon de faire est très différente. Et même avec Jésus, qui pourtant est l'échelle différente, en fait, on est dans une continuité, on est toujours dans cette révélation de Dieu. Voilà. Et on voit même dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, que quelque part, quand on dit celui qui était et qui vient, c'est exactement la même idée que le tétragramme. Voilà, là, on le met avec tous les temps, comme ça, on voit bien qu'il est au-delà du temps et qu'il est tout le temps. Voilà, mais c'est la même idée de « je suis », toujours avec le verbe « être » au sens fort du terme. Et la notion d'éternité et de sainteté. Alors, dans une troisième partie, l'idée, c'était de voir en quoi cette révélation, elle n'est pas juste neutre. Donc, c'est pas ce qu'on a bien dit, hein, c'est pas juste un savoir théorique. Sur Dieu, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui nous transforme de l'intérieur. Et donc, c'est intéressant de regarder comment la parole a saisi les prophètes et en a fait des hommes nouveaux. Alors, chaque fois de la point de départ de la vocation prophétique, il y a une expérience décisive de Dieu. Donc, il y a une rencontre, une vision, il y a quelque chose qui fait que ça bouleverse la vie du prophète et que cette expérience elle vient pas d'eux, c'est pas juste une extrapolation, une vision, qui fait que ça leur donne une assurance et en même temps une difficulté à l'accepter. Donc souvent ils essayent de la fuir, etc. Mais finalement ils n'arrivent pas à s'y dérober et donc ils vont être dans une obéissance finalement inconditionnelle et aller jusqu'au bout de leur mission ou de l'appel qu'ils ont reçu. Et donc cette obéissance, elle n'est pas juste extérieure. Et genre annoncer et puis c'est tout, ça y est, j'ai fait mon boulot. C'est ce que Jonas a essayé de faire. Jonas, il traverse Ninive, ça y est, j'ai balancé la parole, il l'a fait ça en une journée alors qu'il devait faire 3 jours pour traverser Ninive, c'est fait, hop, maintenant je peux passer à autre chose. Mais en fait, il est rattrapé, quoi. Parce que c'est pas juste l'annonce, c'est tout le projet de Dieu, et donc c'est aussi dans sa vie qu'est-ce que ça va devenir. Et donc il y a une obéissance intérieure, du cœur qui embrasse tout l'être. La parole crée en eux le vouloir et le faire. Donc, quelquefois, il y a une sorte d'association entre la parole du Seigneur et ce que dit et fait le prophète, ce que vit le prophète. Donc, le vrai prophète a la parole de Dieu. La parole est, pour ainsi dire, incorporée en lui. Elle a été placée dans sa bouche. Et quand on dit dans sa bouche, c'est bien, quelque part, c'est intérieur, quoi. C'est pas juste les mots qui sont là. Il est devenu, pour ainsi dire, il l'a absorbé. Ça, c'est d'autres termes qu'on voit dans... Ézéchiel et Jérémie. Ses lèvres ont été purifiées et sanctifiées pour cette parole. Ça, c'est Isaïe. Donc, ça a modifié. Il y a un brason ardent qui l'a purifié les lèvres, qui a dû brûler, tout simplement. Il est devenu, pour ainsi dire, la bouche du Seigneur. Donc, c'est la bouche même du Seigneur qui parle. Donc, ces images, elles sont très fortes pour montrer que ce n'est pas juste une parole, que ça imprègne toute sa vie. Et peut-être que l'illustration de la meilleure, c'est Osée, qui, lui, a conformé toute sa vie à ce qu'il annonçait en tant que prophète. Et donc, l'expérience d'Osée, c'est de mettre dans sa vie la conduite que Dieu annonce qu'il a envers son peuple. Et donc, le Seigneur me dit, va de nouveau, aime une femme aimée d'un compagnon, qui comme elle adultère, donc prend une femme qui est déjà quelqu'un d'autre, car telle est, voire même une prostituée, car telle est l'amour du Seigneur pour les fils d'Israël, eux qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Et donc, toute la vie d'Osée est ce parallèle dans sa vie lui-même. Il a pris une prostituée comme femme et il a vécu toute sa vie en parallèle de ce qu'il annonçait comme étant la relation et l'alliance entre Dieu et son peuple. Et donc, il n'y a pas plus quand même... voilà, quand même, il reproduit dans sa vie même tout ce qui se passe. Les faits de l'Ancien Testament apportent ici leur lumière. Ils contiennent quelque chose de l'incarnation du Verbe de Dieu. Ils se produisent là où un homme chargé d'une mission laisse Dieu disposer de son existence et devient obéissant jusqu'à sa chair et son sang, pour que la parole puisse se produire dans l'espace assigné. Voilà, il y a vraiment ce côté, sa chair et son sang, ça l'affecte personnellement et dans tout son être. La vocation est la transposition de la révélation, ce n'est rien d'autre que l'histoire de la transformation de l'homme grâce à cet appel, de l'irruption de la nouveauté inimaginable de Dieu, qui permet, qui contraint le prophète à le devenir, conversion radicale, obéissance absolue. Et donc l'alliance, elle n'est pas juste Dieu qui propose quelque chose, mais elle est bien de l'autre côté, il crée les conditions pour que de l'autre côté, l'alliance, elle puisse être des deux côtés, et finalement qu'il y ait le retour, même s'il y a des hauts et des bas, et donc c'est cette transformation qui fait que... c'est pour ça qu'on est un peu dans la même notion que la réalité du Christ, voilà, le prophète, il incarne quelque part, c'est incarner ce que veut Dieu. Et c'est transparent aussi c'est exemplaire aussi dans la manière dont les prophètes sont persécutés, comme leur Seigneur, comme s'ils anticipaient la croix, ils portent leur croix. Donc ils s'impliquent totalement dans la parole reçue et donnée jusqu'à éprouver sur lui-même le rejet que les hommes opposent à Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. C'est Isaïe, donc c'est le serviteur. Donc on n'est pas sur Isaïe lui-même, mais sur ce serviteur du Seigneur, dont on ne sait pas très bien qui il est, mais qui, en tout cas, pour nous, sera exemplaire de Jésus. Donc une image, une préfiguration de Jésus. Et ce que nous dit Antoine Balthazar, c'est le cas le plus clair parce qu'il est le plus haut latitude du serviteur du Seigneur, donc le passage que je viens de vous citer. Le parfait abandon à Dieu devient de lui-même abandon total aux hommes. La non-résistance est la même dans les deux directions parce qu'elle est parfaite. Et dans cette coïncidence, la volonté divine du salut peut s'incarner. Ce n'est pas seulement l'écoute d'une parole de Dieu limitée jusqu'à un certain degré d'accueil, d'intelligence et de communication, mais c'est tout l'être devenu oreille, toute l'existence du peuple de l'Alliance qui se trouve envahi par toute la volonté d'amour du Seigneur de l'Alliance, qui se rend réellement présent dans le prophète par les coups, les infamies, les outrages, les crachats. Dans cette non-résistance, dans cette obéissance et en elle seule, se croisent les deux routes, la route de Dieu vers l'homme pécheur et la route de l'homme pécheur vers Dieu. Alors, c'est vrai que là, il transpose beaucoup au Christ, mais même le prophète, déjà, il vit quelque chose de ça. Déjà, c'est intéressant parce que le devenu oreille, j'aime beaucoup cette expression, le schéma Israël, c'est écoute Israël. Et donc, le absorber Dieu, le connaître, c'est déjà écouter. Voilà. Et ça commence par l'oreille, qui est la porte d'entrée vers le cœur et vers tout l'être. Et puis, il y a cette volonté d'amour de Dieu, mais qui contredit le péché, et donc ce monde actuel, ce monde tel que nous l'avons, qui est pécheur, et qui fait que du coup, il y a cette persécution, et en même temps, cet abandon pour que les deux routes se retrouvent et qu'il y ait les deux trajets qui puissent se faire, et donc l'alliance devenir véridique. Donc ce sera vrai dans Jésus, mais chaque prophète essaye ou incarne un peu ça. Voilà. Donc il y a quelque chose de ça, déjà dans chaque prophète. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais pas de paroles théoriques, mais vraiment de paroles, et c'est vraiment la notion d'amour qui est cœur, parce que connaître, au sens de la Bible, c'est connaître intimement, et donc connaître aussi avec le cœur, c'est vivre avec quelqu'un, enfin c'est au sens communion réciproque, voilà, et avec le Seigneur, ça veut dire foi et obéissance, mais ça veut dire aussi amour, et donc se convertir au Seigneur, le connaître à nouveau, connaître Dieu, c'est lui être attaché par des liens de fidélité et d'amour. Et c'est la belle phrase de Jérémie, « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit, tu m'as saisi et tu as réussi. » Voilà, il y a une notion d'amour, sinon la connaissance en fait va pas bien loin et du coup le prophète va pas aller au bout de sa mission, c'est sûr. Et nous, en tant que chrétiens, c'est exactement la même chose en tant que baptisés, c'est la même notion. Jérémie illustre le plus profondément la nature absolue du don de Dieu présent dans cet appel, malgré les souffrances et les découragements. Je vous invite à lire tout Jérémie, hein, c'est très beau Jérémie. « Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était là comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. » Et donc, il y a ce conflit, c'est tellement énorme, tout ce que demande le Seigneur, c'est tellement... c'est un amour brûlant, au sens, voilà, dans tous les sens du terme. Du coup, c'est compliqué, mais en fait, on ne peut pas s'y soustraire, et le prophète ne s'y soustrait pas. Et donc, il en fait quelque chose, voilà. Même si c'est pas toujours... ça peut être très douloureux, Jérémie, il y a quand même beaucoup de lamentations. Enfin, les lamentations, c'est surtout sur le péché. Le prophète est littéralement arraché d'une façon exceptionnelle à ses sentiments personnels de plaisir ou de déplaisir et entraîné dans le pathos même de Dieu. Non seulement la connaissance des desseins de l'histoire, mais les sentiments du cœur de Dieu se sont installés en lui. Donc là, l'amour et l'alliance, elle va jusqu'à cette communion, et communion au sens où on peut même éprouver quelque chose de même nature que Dieu. Voilà. Aussi, on est à l'image, à la ressemblance, donc il y a quelque chose qui est co-naturel et qu'on peut vivre. Une autre phrase, Moïse est parfaitement solidaire du peuple pécheur qu'il représente devant Dieu quand il cherche à apaiser la colère divine. Et il est en même temps solidaire de Dieu quand, sous l'effet de la colère divine, il brise devant le peuple les tables de l'Alliance. Et lorsqu'un prophète ainsi transformé en porteur de courant veut ensuite échapper à cette haute tension, il est en grand danger d'être intérieurement consommé. Donc là, c'est une autre image, alignée à haute tension. Donc c'est dangereux, mais c'est très efficace pour transmettre l'énergie. Voilà. Donc c'est la même chose, et quand on essaye de bloquer, ben en fait ça marche pas. Donc il faut circuler. Si on essaye de couper ce courant à haute tension, on va se faire électrocuter. Ouais, ça doit circuler et ça doit être missionnaire, le prophète. Et donc seul l'amour peut permettre de connaître et ainsi de pouvoir reconnaître l'appel. Alors déjà d'identifier l'appel, hein, parce que sinon là Moïse il est au moins intrigué, il est au moins désireux, il commence la discussion, il se laisse prendre. La vivre de l'intérieur, annoncer la révélation de façon transparente et juste. Sinon, il y a un décalage entre ce qui est les paroles qui sont dites ou ce que le prophète va transmettre Et puis, le fait que du coup, il est opaque à ce que Dieu veut révéler, si jamais il n'est pas en communion et en, finalement en alliance parfaite avec, avec le Seigneur. Et donc, cette transparence, elle est nécessaire et elle est possible que par l'amour et le fait de se laisser habiter par le Seigneur. Finalement, c'est exactement ce qu'on essaye de vivre dans l'évangélisation. Ou si on essaye de dire notre parole à nous, ça ne sert à rien. Ce n'est pas intéressant d'une part. Et d'autre part, mais être transparent à ce, pour que ce soit la parole de Dieu qui passe en nous. Et en même temps, c'est en étant habité qu'on ne va pas dire non plus une parole mécanique et qu'on va pouvoir annoncer quelque chose qui dit vraiment, qui présente le Seigneur. Voilà, alors on n'est pas toujours au niveau des prophètes, hein, ça serait. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut faire quelque chose et qu'il faut y aller. Alors, ce que les différentes vocations de l'Ancien Testament manifestent, c'est vraiment cette historicité du salut et en même temps cette continuité qui permettent de discerner que la révélation consiste vraiment dans cette alliance, une relation par l'intermédiaire d'une parole adressée gratuitement par Dieu, donc c'est lui qui a l'initiative, à des individus et au peuple qu'il s'est choisi. Et c'est vraiment important on a vraiment l'idée que la révélation, c'est hop, on reçoit des trucs. Et c'est d'autant plus vrai à l'époque actuelle où l'islam est un peu dans cette logique-là. Voilà, on reçoit le Coran, on reçoit les commandements, on reçoit les préceptes. Voilà, donc c'est là. Maintenant, tu as juste appliqué. En fait, c'est vraiment pas du tout le Dieu de l'Alliance, quoi. Et c'est notre Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Et je trouve que les prophètes et cette vie, cette continuité, cette relation entre le prophète, son Dieu, avec le peuple, etc., ça montre bien ce côté qu'on est sur une alliance, quelque chose qui se noue dans le temps, parce qu'on est nous dans le temps. Et qui va cheminer et qui va s'apprivoiser mutuellement et avancer vers une plus grande communion, si on laisse faire les choses du bon côté et qu'on demande la conversion. Et donc, il y a vraiment ces appels qui sont autant descendre de Dieu vers l'homme pour réaliser son projet et qui est de nous élever jusqu'à lui, de nous faire partenaires. Et finalement, dans le prophète, c'est ce qu'il essaye de faire. Il vient au-devant du prophète et il va jusqu'à le chercher là où il est, même s'il n'a pas envie, à insister, à donner les moyens, etc., pour que le prophète puisse vraiment jouer ce rôle-là et finalement entrer en communion avec Dieu et embarquer le peuple avec lui. Si nous nous abandonnons à Dieu, si nous nous mettons à sa disposition, nous, disent les prophètes, ce qu'ils nous apprennent, alors nous apprendrons à connaître Dieu et Dieu se fera connaître à nous. À travers ces appels, c'est le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, qui est annoncé et promis. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc c'est la promesse de Jérémie et c'est la promesse qui se réalisera dans le Christ, que nous verrons la prochaine fois. Merci. Merci.